Le journal Ramambaï.
Meurtre ce matin dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Trois personnes ont été assassinées ce matin par un militaire. Le soldat a été poursuivi par la police pour avoir tiré deux balles dans les pieds d'un receveur. Suite de l'affaire vente illicite des poutrelles de l'Onatra, l'entreprise Meli Congo reconnaît avoir acheté du matériel auprès de la société étatique, mais légalement. À Benachitolo, au Kassai oriental, les conflits se règlent de façon barbare. La semaine dernière, une série de maisons ont été consumées en deux nuits. Le commissaire de ce village demande un renforcement sécuritaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Kinshasa, fusillade ce matin au quartier Louboudi, dans la commune de Bandalungwa. Trois personnes ont été abattues par un soldat en civil. Ce dernier tentait de se défendre des éléments de la police et des habitants qui le poursuivaient. Ceci après avoir blessé par balle un receveur qui lui réclamait de payer son ticket. Dans sa fuite, le militaire s'est donné la mort. Toujours dans le même quartier, non loin du lieu de la fusillade, le corps d'un étudiant de l'Institut supérieur de commerce a été retrouvé sur l'avenue Bakongo. Aucune trace de violence n'a été observée sur la dépouille. Un officier de la police d'intervention rapide chargé de l'enquête résume cette double affaire au micro de Thérèse Bassoubi.
C'était aux environs des 4h du matin que nous étions alertés par nos services. Et vers 5h du matin, je suis moi-même descendu sur terrain. Et nous avions enregistré des cas tout à fait différents. D'abord, le premier cas sur l'avenue Bakongo, où nous avions trouvé un corps gisant sur le sol de monsieur Kaika Mutombo Tonton. Il est étudiant à l'ISC en deuxième gradué en marketing. Bon, c'est un cas qui nous paraît un peu suspect, dans la mesure où il n'y a ni de traces de balles, ni de contusions sur son corps. Nous sommes en difficulté pour pouvoir déterminer avec exactitude les circonstances de sa mort. Il n'y a que le médecin légiste qui pourra les déterminer. Pour le cas de la fusillade, tout est parti de Kanluka. Un homme en tenue civile armé a tiré sur un receveur de minibus à la cuisse. Alors la population s'est mise à la pourchasser. C'est ainsi qu'il se mettait à tirer en désordre. Et lui-même s'est donné aussi la mort. Aujourd'hui, nous avions enregistré 4 cas de morts et un blessé.
Le commandant des opérations FRDC en Ituri a appelé les commandos présents à Bounia à la discipline, à l'observance des règles et des coutumes de la guerre. Ceci en prévision des imminentes opérations dans la région de Tchéi, au sud de Bounia. Le général Bob Ngoy, lors d'une causerie morale tenue ce matin à Bounia, il a également demandé à la population de se désolidariser des miliciens. Le porte-parole des FRDC en Ituri, le capitaine Charles Boyeka, le dit au micro de Jean.
On leur a demandé maintes fois, en langue locale, en swahili, en français, de se désolidariser des miliciens, de quitter ces lieux avant qu'il ne soit tard. On leur a largué même ces communiqués dans leur secteur. Donc, ils sont libres de choisir notre camp et de quitter les lieux des miliciens. Pratiquement partout, il y a des issues où ils peuvent se rendre à la Monique comme ils le veulent parce qu'ils ont peur des FRDC, que ce soit même les miliciens qui voudraient se rendre au gouvernement. Ils n'ont qu'à choisir là où il y a des gens de la Monique, parce que la Monique est à peu près tout autour de ces secteurs-là. Donc, ils peuvent se rendre à ces lieux et après, on va les ramener ici en ville.
Les agences humanitaires onusiennes présentes en Ituri viennent de publier un communiqué de presse conjoint dans lequel elles demandent à toutes les forces impliquées d'assurer que la conduite des opérations militaires ne dérange pas la population. Dans le Maniema, environ 100 militaires sont partis de Punia hier mercredi pour Kindu. Ces militaires qui transportent armes et baluchons arrivent dans le chef-lieu pour un regroupement au camp Luama en attendant leur départ pour le centre de brassage. Pour éviter tout dérapage dans le comportement de ces hommes armés en mouvement, le major Serge Mutagaza, commandant de la 73e brigade basée à Punia et à Lubutu, précise les mesures prises.
Oui, ces militaires sont des militaires de la brigade. Disons qu'ils vont en regroupement au camp Luama en attendant le brassage. Nous avons pris des mesures, c'est-à-dire les militaires qui partent sont sous commandement de responsables. Et nous nous sommes entendus qu'ils partent, qu'ils ne tracassent pas, qu'ils ne fassent pas porter les bagages à la population. Lors même de la réunion de sécurité, nous nous sommes entendus que les paisibles citoyens puissent vaquer à leurs occupations et laisser les militaires partir jusqu'à destination. Il y a deux temps. Ceux d'aujourd'hui sont partis de Punia vers Kindu. Il y aura un autre mouvement qui partira de Mungele, Lubutu, Punia, Kin dans une semaine.
Les soldats de la 8e région militaire mécontents de leur solde du mois de janvier. Selon eux, cette rémunération a été réduite. Mardi dernier, les militaires du régiment de défense se sont révoltés et ont même tant refusé d'être payés. Des sources militaires affirment que cette solde a été réduite par l'état-major des FRDC à Kinshasa. Pourquoi? La réponse dans ce reportage de Gisèle Cage.
Chaque militaire de la 8e région militaire a vu son salaire du mois de janvier réduit. D'après des explications des responsables militaires, c'est à partir de Kinshasa que la solde des militaires a été diminuée. Selon toujours les mêmes sources, le ministère de la Défense, appuyé en cette matière par la Banque mondiale, a revu à la baisse les effectifs de la 8e région militaire à cause du départ de certains soldats qui ont choisi la vie civile. En conséquence, l'enveloppe salariale a elle aussi été réduite. Plus de 4 000 éléments ne seraient plus comptabilisés. Une mesure jugée injuste par certains officiers de la 8e région militaire, car selon eux, le chiffre des démobilisés en provenance de la 8e région militaire n'atteigne en réalité même pas 600 ex-combattants qui sont passés par la démobilisation à la CONADER. La 8e région militaire affirme en outre que certains éléments en provenance d'autres régions militaires se seraient identifiés à la CONADER comme faisant partie des unités de la 8e région. Madame Françoise Moulawa, responsable de la CONADER au Nord Kivu.
Chaque ex-combattant est supposé avoir reçu une attestation qui atteste son désarmement au niveau de la structure militaire d'intégration dans le centre de regroupement. Et chaque élément démobilisé est bien identifié avec sa photo, la composante et même l'unité de provenance.
Toutes nos démarches pour faire réagir le ministère de la Défense n'ont pas abouti, mais d'après toujours des sources militaires, toutes les régions militaires ont vu leur enveloppe salariale du mois de janvier diminuer. Gisèle Cash Goma, Radio Okapi.
Affaire vente illicite des poutrelles de l'ONATRA servant à la réparation du port de Matadi et du chemin de fer à l'entreprise Mélicongo. L'entreprise, par le biais de son avocat, conseil, reconnaît avoir acheté ces matériaux, mais l'opération, selon lui, s'est faite auprès des responsables de l'ONATRA en toute légalité. Maître David Chomba est au micro de René Capita.
Nous avons acheté à bonne et due forme le poutrel auprès de l'ONATRA. Mélicongo avait cédé à Tony Metal et Tony Metal avait cédé à Hydrometal et Hydrometal qui le livre à la Régie des Eaux. Et nous avons devant nous, avec moi, toutes les preuves de paiement qui n'ont été effectuées entre les mains d'un individu, mais nous avons traité avec le service compétent de l'ONATRA qui nous ont livré même le reçu et le facture. Donc c'est à tort qu'on incrimine Mélicongo comme acheteur de poutrelles volées.
Donc, vous confirmez que Mélicongo a acheté ces poutrelles en bonne et due forme.
En bonne et due forme. Nous avons le facture, nous avons le reçu de perception d'argent qui était entré dans la caisse de l'ONATRA et ce n'était pas entre les mains d'un individu que Mélicongo aurait versé cet argent.
La réhabilitation et la gestion de l'hôtel Caravia sont confiées à l'entreprise indienne Shalina. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mercredi à Lubumbashi en présence du ministre de Tourisme. Coût total des travaux, 11 millions de dollars américains. Déjà, le ministre a pris un train de mesures pour éviter que la nouvelle gestion ne sombre comme par le passé. Au nombre de ces mesures, tous les services de l'État doivent payer leurs factures. José Ngwanda, ministre du Tourisme.
Nous mettons un terme à tous ces contrats, à tous ces partenariats et nous avons eu principalement à informer le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur qui envoient les militaires et les policiers ici. Pour une meilleure et une bonne gestion, nous devons mettre un terme à toutes ces occupations gratuites des hôtels qui ne permettent pas un bon épanouissement de l'hôtel. Il va sans dire que la réhabilitation ne va pas prendre 10 ans ou 15 ans. La réhabilitation prendra certainement quelques mois, mais pour permettre à l'investisseur de récupérer son argent, c'est ainsi que nous avons envisagé 10 ans en titre principal et exceptionnellement 15 ans.
Les familles sinistrées par les inondations à Kisantu dans le Bas-Congo nécessitent de l'aide urgente des ONG locales et internationales pour soulager leurs souffrances. C'est du moins l'appel lancé ce jeudi par Antoine Gonda, ambassadeur itinérant du président de la République. Gonda et le vice-gouverneur de l'ECOFIN du Bas-Congo, Deonkusu, sont arrivés ce jeudi à Kisantu pour apporter les premières aides d'urgence. Mais il y a encore beaucoup à faire pour ces 150 familles sinistrées depuis le début de cette semaine. semaine suite aux grosses pluies qui ont fait déborder la rivière Inkissi. On écoute Antoine Gonda au téléphone de Gene Kabambi.
Il y a plus ou moins 150 familles de sinistrés, victimes finalement de cette inondation de l'eau de la rivière Inkissi. L'état de santé, bon, on dirait que pour le moment, il est quand même assez précaire s'il n'y a pas une assistance, digne de ce nom. Alors, on a pu donner une assistance alimentaire, mais maintenant, c'est plutôt une assistance hygiénique. Et puis, il faut très, très vite aider les familles parce que là, maintenant, ils sont dans les paroisses. Il y a 3 paroisses et une école où on a installé, on a réparti ces familles. Puis, il faut très vite réagir pour éviter les maladies telles que choléra, malaria, parce que là, l'état des lieux, je ne pense pas que ce soit recommandable qu'on puisse laisser la population. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des ONG humanitaires qui puissent venir sur les lieux, qui ont déjà cette expérience, pour pouvoir assister, emmener par exemple des médicaments, faire un état, jeter un état des lieux. Il faut vraiment des produits de première nécessité pour pouvoir désinfecter, désinsectiser, pour permettre finalement à ceux qui veulent aider et permettre aussi à ces familles de pouvoir recouvrer leurs biens et puis qu'ils puissent éviter les contaminations.
Cap sur le Kasaï oriental, la localité de Benachitolo, un village situé à environ 50 km au nord de Mbujimayi, continue d'être le théâtre des règlements de compte. Il y a 3 semaines, des affrontements ont opposé les membres d'une même famille après la découverte d'un gisement de diamants faisant 2 morts et plusieurs blessés. Le dernier événement en date a résulté en des dizaines de maisons incendiées pendant plusieurs nuits de la semaine dernière. Alexandre Bia Moutoke, commissaire de district assistant chargé des finances, nous relate les faits au micro d'Esther Ndalafina.
La nuit de jeudi au vendredi et la nuit de samedi au dimanche. Il y a eu 65 maisons brûlées. Le dimanche, pendant qu'ils ont confectionné le rapport, on fait encore état d'une vingtaine de maisons brûlées. Au total, 85 maisons incendiées dans 2 jours, dans 2 nuits successives. Faute d'éléments de la police pour nous donner la précision. Maintenant, nous avons demandé à la justice et à la police de continuer le travail pour traquer d'abord les auteurs et les co-auteurs, même les commanditaires, pour qu'on mette dans le secteur de Chitolo une vingtaine ou une trentaine de policiers pour sécuriser la population. C'est une tâche difficile pour nous parce que nous avons affaire encore à des gens qui utilisent la barbarie comme mode de gestion de conflit.
Au Kasaï occidental, l'équipe de recensement des fonctionnaires de l'État constate que par ignorance, des agents se présentent avec leurs anciens grades. Cela ne leur permettra pas d'accéder à certains avantages ni aux salaires dus aux nouveaux grades acquis par le décret du chef de l'État. Selon Anselme Moufouek Kapaï, membre de l'équipe de recensement, ces cas se retrouvent surtout au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Ils demandent aux fonctionnaires de l'État de vérifier leur grade avant de se faire enregistrer. Anselme Moufouek Kapaï est au micro de Marie-Chantal Lumba.
Nous avons remarqué que les camarades professeurs enseignants qui se présentent devant nous, au lieu de constater d'abord les ordonnances qui étaient signées par le chef de l'État, venir avec les grades pour lesquels le chef de l'État vient de signer les degrés, ils viennent se recenser avec leurs anciens grades. Et nous avons un problème très sérieux. On voit que les fiches sont comptabilisées parce que nous n'avons pas d'autres fiches. Le fiche a été comptabilisé par le gouvernement. Nous n'avons pas 2 fiches pour éliminer le fiche et donner encore une autre fiche. Ça, nous le ferons jamais. C'est ce qui nous pose le problème maintenant. Les conséquences, ça en est que l'opération ne va plus se rouler à deux niveaux. Donc, ils vont perdre leur grade. Donc, les grades qui seront comptabilisés sont les anciens grades. Pas simplement les avantages sociaux, mais au niveau du salaire, parce que le grade 31 n'a pas le même montant que le 130 ou 140. Les anciennités, les années qu'ils ont fait, 20 ans, 30 ans, 19 ans.
L'actualité en dehors de nos frontières, le Maroc ne pourra pas rejoindre l'Union africaine tant que le Sahara occidental continuera à siéger au sein de cette organisation comme membre à part entière. Déclaration faite hier à Brazzaville par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À noter que le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite depuis mardi au Congo-Brazzaville, dont le chef de l'État assure la présidence tournante de l'Union africaine. Arsène Sévra.
C'est depuis 1983 que le Maroc s'était retiré de l'OIA, aujourd'hui l'Union africaine. C'était pour protester contre le soutien de l'organisation au Sahara occidental. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed
Benaïssa a rappelé que tant que le Sahara occidental a une siégée à l'Union africaine, le Maroc ne pourra pas la réintégrer. Peu avant cette conférence de presse, les Congo-Brazzaville et le Maroc ont signé des accords dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Dans le domaine de la santé, le CHU de Rabat est jumelé à celui de Brazzaville. La grande nouvelle, la Royal Air Maroc va aider à la création d'une nouvelle société aérienne au Congo-Brazzaville. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que c'était dans le souci de partager l'expérience avec d'autres pays africains que le roi Mohamed VI organise cette tournée à Saint-Séverin-Brazzaville, Radio Capi.
Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur Radio Capi.